Tenez-vous en retrait. Je préfère opérer seul.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce premier numéro de la pause Kawa. Nous sommes à l'école multimédia à Paris. Et l'émission est une grosse surprise, mais je suis très heureux de vous la proposer pour la première fois. Alors évidemment, c'est un pilote, et je demanderai à Amo son avis à la fin.
Les barres parallèles, on appelle ça ma spécialité.
Les barres parallèles, celles de la pause évidemment, où nous recevons pour ce premier épisode Grégory Yenko. En plus d'être un des quatre directeurs de Radio Kawa, c'est un journaliste belge. On aura donc l'occasion de parler de Kawa, du journalisme et aussi de la Belgique.
Quelqu'un essaye-t-il de se cacher dans le noir ?
Et oui, la pause Kawa, c'est une conversation à deux ou plus qui peut vite partir en freestyle, des gens avec qui j'ai envie de causer d'eux, de leur travail, de tout et de rien. C'est un peu le carrefour de Radio Kawa que je vous propose dans ce pilote. Coucou Greg, bienvenue dans l'émission dans l'émission.
Je déteste ce moment.
Je lui ai dit, prends la bière, t'en auras besoin, effectivement.
Une bière, on va dire délicate.
Hein. Seul Franck était au courant de ce pitch.
Ah mais c'est pour ça qu'il n'est pas venu donc, voilà.
Exactement. Ça peut être structuré ou déstructuré pour ce soir, vu qu'il s'agit d'une émission dans l'émission, c'est structuré et ce sera plutôt court pour cette première. Donc, il s'agit d'un collègue et néanmoins ami, Greg Yenko.
Bonsoir.
Voilà, merci. On va parler de différents trucs, si tu le veux bien. Et j'aimerais d'abord parler de ta nationalité, parce que tu es belge, mon cher
oui,
Greg.
Il paraît.
Et j'aimerais savoir ce qui se passe un peu chez vous en ce moment. J'ai entendu dire que le gouvernement était passé en affaires courantes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors, en plus, on a donc un gouvernement minoritaire en affaires courantes. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui n'a plus de majorité au Parlement et qui, donc, jusqu'aux élections, va traiter des affaires courantes. Donc, que le gouvernement, que le pays, plutôt, tourne bien, ouais. Mais il ne peut plus proposer de nouvelles lois, etc.
Donc, vous attendez un nouveau gouvernement ? Ça arrive quand, ça ?
En mai, il y aura élections.
D'accord, donc c'est après le Brexit. C'est un beau bordel en Europe en ce moment.
C'est bordel, oui. Surtout que bon, la Belgique, on sait, il y a beaucoup de gouvernements. C'est pas la première fois. Voilà, je vais pas entrer dans les détails parce que sinon on peut faire 3 heures.
Non, on fera maximum 20 minutes. Comment
15 minutes, moi, seulement.
L'émission, en vrai, c'est un format plus long, mais voilà. Comment est-ce que vous le vivez au quotidien ? Comment ça se passe quand ton gouvernement il est en affaire ? D'autant que c'est pas la première fois, donc vous êtes un peu habitué, tu vois, il y a des bons réflexes.
On le vit très bien, écoute, il n'y a pas trop de soucis. C'est ça qui est assez dingue.
Petite sous-question, du coup, le roi, il fait quoi pendant ce temps ? Parce qu'il est, est-ce qu'il a une.
Le roi peut continuer. Enfin, le roi, son poids principal en Belgique, ouais. C'est de désigner. D'un négociateur pour oui bon
le terme, ça part
le
mal
terme, le terme c'est comme ça malheureusement un négociateur qui après les élections va permettre de former un gouvernement.
D'accord,
voilà, donc du coup c'est quasiment le seul pouvoir que le roi a. Après il a un pouvoir plutôt consultatif, on va dire que tous les ministres etc. Vont venir le voir, il va proposer des questions.
C'est niveau... toi le roi ce soir, j'entends les photos. C'est...
Donc voilà, il peut discuter de questions économiques, politiques, etc. Mais il n'a pas de pouvoir décisionnel.
Très bien. Donc du coup, sur le quotidien, pour y revenir,
oui.
Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des trucs qui paraissent différents ? Tu passes vers l'administration, toi qui es journaliste justement, il y a un climat de tension, il y a un climat de confusion, les gens commencent à stocker le sucre, qu'est-ce qui se passe ?
Non, franchement, comme je disais, on le vit plutôt bien dans le sens où, comme j'ai dit, en Belgique, il y a plusieurs gouvernements. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de pouvoir, donc on a le niveau fédéral, on a le niveau régional qui est juste en dessous, donc on a 3 régions, Bruxelles, la Flandre au nord et la Wallonie. Au sud. Et donc, du coup, tant que ces gouvernements tiennent plus que le fédéral, il n'y a pas trop de soucis. Entre guillemets, y a pas de
les poubelles sont ramassées, les égouts ne se bloquent pas, etc.
Ça. Le seul truc qu'on a pour le moment, c'est plutôt. Toi, parce que toi, en Suisse, plus ou moins, ça va.
On va y venir.
En France, j'allais dire, il y a le mouvement des Gilets jaunes pour le moment qui occupe beaucoup l'actualité.
Qui sont intervenus en Belgique en plus.
Ils sont intervenus en Belgique, mais ça a bidé.
C'est-à-dire, ça prend
ils sont venus à Bruxelles, ils étaient 1000 une fois.
Pas abruti, mais en zone limitrophe, t'en as qui sont venus bloquer des entrepôts.
Voilà,
de
c'est-à-dire qu'il y en a encore.
Chier, quoi.
Il y a quelques groupes qui vont bloquer encore des entreprises, ouais, etc. Des raffineries et tout, mais ça reste assez limité.
C'était dans les premières semaines ou c'est toujours le cas maintenant, ça, d'ailleurs ?
Il y en a encore quelques-uns, mais franchement c'est. Mais c'est très, très.
Genre, ils vont
très
chercher
limité,
les clopes,
quoi,
et ensuite ils vont bloquer un truc.
Voilà,
c'est ça,
ils font aussi barbecue, etc. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais donc. À la place des Gilets jaunes, pour le moment, on a un mouvement assez écologiste qui arrive avec les jeunes, justement, qui, tous les jeudis, sèchent les cours. Il y a eu ça en Suisse aussi.
Oui.
Ils sèchent les cours pour pouvoir manifester pour le climat.
Les actions pour le climat, oui.
Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt ça, pour le moment, qui est en train de mener l'actualité et qui occupe, entre guillemets, le gouvernement fédéral, parce qu'il demande des actions pour le climat. Et il y a justement une proposition qui est en train d'être faite pour essayer que, malgré le fait que pour le moment le gouvernement ne peut plus rien faire, malgré tout la chambre, enfin le parlement peut toujours voter des lois malgré tout, et donc du coup ils peuvent peut-être voter une loi pour un plan climatique plus ambitieux. Et donc c'est ça ce que réclament les jeunes actuellement en Belgique.
Ce qui est fun d'ailleurs quand on est en Suisse ou en Belgique, c'est les chiffres de manifs. Parce qu'en France on dit 10 000, 20 000, ouais, il y avait du monde. Chez nous on fait 2 000. Oh, mon Dieu, 2 000 dans une ville, c'est incroyable. Raz-de-marée humain. Mais vous avez le même phénomène c'est incroyablement ça... peu, mais en fait c'est beaucoup.
On a eu ça au début, et puis finalement, il y a eu un jeudi, il y a un mois, où ils étaient 80 000 à Bruxelles.
Ah, merde !
Donc, c'est quand même beaucoup.
Et ils venaient d'ailleurs, du coup, ils venaient en train...
Oui, voilà, c'est ça. C'est, ils venaient de tout le pays. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils vont manifester dans plusieurs villes. Donc, ils manifestent chez eux, à Louvain, à Liège, à Namur, à Anvers, à Bruxelles. Et du coup, si on... compte tout, ça fait plus ou moins 50 000, 80 000 personnes, mais voilà, c'est juste qu'ils sont plus dispersés.
Vu ton métier, je pense que tu as entendu parler du documentaire Bye Bye Belgium,
enfin,
du documentaire, du faux documentaire, de la fausse soirée spéciale, pour expliquer un petit peu au public. Donc c'était une soirée spéciale de la RTBF.
Voilà, et donc c'était... parce que je m'en souviens.
Enfin, tu l'avais vu à la télévision.
Je l'avais vu à la télé, je crois que c'était en 2007, donc j'avais 17 ans.
Je crois que c'était un petit peu avant, mais peut-être 2007. Ok,
2007,
bon, on s'en fout.
Enfin bref, voilà. Donc j'étais encore étudiant. Je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait un match de football et c'est un ami qui m'avait dit vas-y, tourne la télévision sur la première chaîne publique belge.
Il a déjà dit tourne, ce qui. c'est pas vraiment un truc très français, mais oui. Mais
c'est bien beaucoup, parce qu'il y aura beaucoup de belgicisme dans cette interview.
C'est la même chose en Suisse, on dit beaucoup tourne la chaîne de la télé, etc.
Et donc, j'arrive sur la première chaîne publique et je vois qu'ils annoncent en édition spéciale le JT, donc le décor du JT, le présentateur star du JT qui annonce que la Flandre a déclaré son indépendance et que donc la Belgique est séparée entre la
Belgique
la Flandre,
n'existe plus.
Voilà, la Belgique n'existe plus. Parce tout simplement. Et ça a duré, c'est une émission qui a duré une heure et demie. Au début, c'était franchement très crédible. Je trouvais que c'était vachement très crédible, même s'il y avait des indices.
Oui. Mais il fallait regarder.
Il y avait plein de petites choses qui faisaient que tu pouvais te douter que c'était un canular.
Il fallait regarder vraiment dès le début pour le remarquer.
Oui,
c'est vrai
que dès le début, en fait, en gros, ils avaient fait genre.
Une parodie d'émission de débat avec les pauvres sont-ils vraiment très méchants ?
Voilà, et que le canal était comme s'il était piraté, etc. Enfin, oui. Bref, ça avait été un peu loin. Et ils avaient même été interrogés, Axel Red, etc., qui réagissait vraiment. Oui, Philippe Gueluc, qui réagissait sérieusement en disant mais c'est la fin, qu'est-ce qui se passe ?
Le truc le plus fort, c'était d'avoir des politiciens qui réagissaient.
Oui.
Ils les ont micro-piégés dans certains cas en disant c'est que hypothétique, etc. Mais c'était super intéressant d'avoir même des politiciens qui, pour la plupart, jouaient le jeu.
Oui, et ça a fait évidemment beaucoup de débats au niveau déontologique de voir la RTBF faire ça voilà. En utilisant ses journalistes et ses politiques.
Les faux sujets de débat, quand même, c'était « Va-t-on supprimer les indemnités de chômage en Wallonie ?» et « Les Flamands sont-ils plus corrompus que les Wallons ?»
Ah oui, ça allait un peu loin.
Chaud, quoi.
Mais c'est tous ces indices-là qui, au fur et à mesure de l'émission, prouvaient que non, c'était vraiment une bêtise sans nom. Mais voilà.
Et ce dont on se souvient moins là-dessus, c'était qu'il s'était pris une chasse incroyable en disant « Vous avez fait de la désinformation, c'est un scandale, vous avez utilisé
vraiment,
le décor du journal, le présentateur du journal, vous abusez. »
Voilà, et la RTBF s'était défendue en disant que de toute façon, on avait montré dès le début de l'émission, si on regardait vraiment dès le tout début, que c'était quelque chose de faux,
un
canular. Il y avait des indices justement tout au long de l'émission. C'est là-dessus qu'ils ont joué. Mais clairement, moi j'ai été très mal à l'aise à ce moment-là, parce que oui, j'y ai cru un peu au début. Et c'est très étrange de la part d'une chaîne publique, surtout, de réaliser ce genre... ce genre de canular.
Pourquoi ça aurait mieux passé si c'était une privée ?
Je pense pas que ça serait mieux.
Ou moins mal. Je te le donne comme ça.
En fait, j'ai du mal à le voir comme ça. J'ai dit public, mais c'est presque qu'une chaîne de télévision qui fasse de l'information arrive à ce stade-là de faire ce genre d'émission. Voilà.
Ce spectre-là aujourd'hui de l'indépendantisme, c'est quelque chose qui est encore, vu les tensions politiques, le fait que tel et tel n'arrive pas à s'entendre, c'est quelque chose qui est encore flottant.
C'était très chaud à ce moment-là, en effet.
Pour faire un document pareil, t'imagines ?
Pour le moment, on n'en est plus vraiment là, c'est-à-dire que, en gros, les indépendantistes flamands étaient au gouvernement. Depuis 4 ans, c'est eux qui sont partis justement et qui fait que le gouvernement est aujourd'hui minoritaire et en affaires courantes. Mais en gros, ils ont accepté de monter au gouvernement si ils acceptaient de mettre le communautaire, donc tout ce qui est indépendance de la Flandre, etc., au frigo. Donc le temps du gouvernement.
Mais maintenant...
Maintenant qu'ils sont partis, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais le problème, c'est que même... Je ne pense pas qu'ils pourraient encore mettre ce dossier-là sur le devant de la scène, parce qu'il y a les élections et qu'il faudra former un gouvernement après, parce que ce n'est pas du tout comme en France où, en gros, le premier parti gagne et hop, on peut... il a son président, youpi, on peut former un gouvernement. Ici, le gouvernement, c'est toujours une négociation, c'est toujours... il faut toujours avoir une coalition. Et donc, c'est très compliqué que même un autre parti flamand accepte cette image d'indépendance de la Flandre avec donc le parti nationaliste.
On va changer un petit peu de contexte maintenant. Tu es également journaliste. Oui. Tu couvres le sport, mais tu couvres aussi d'autres domaines de temps en temps, j'imagine.
J'ai couvert le sport et maintenant je couvre beaucoup moins. Maintenant, je couvre beaucoup plus Bruxelles, justement.
La politique, de la vie,
voilà,
des trucs,
société, du social, etc. Un peu tout.
Le manque de confiance ambiant vers les journalistes dont on nous parle à longueur de sondages d'opinion, est-ce que tu le ressens dans ton travail ?
Je l'ai fort ressenti, justement, on a eu des élections locales il y a peu. Et j'ai été faire une tournée de toutes les communes bruxelloises, il y en a 19, tous les jours, à aller leur poser des questions, leur demander s'ils avaient des questions justement pour les débats qu'on organisait le soir même. Et il y avait énormément de défiance envers les journalistes, en estimant qu'on allait certainement couper des choses dans ce qu'ils allaient dire, dans les questions qu'ils allaient poser, etc. Et donc c'est toute une mécanique en effet de les rassurer, de dire que quand on... Du moins en télévision, quand on monte, ou du moins on ne monte pas pour truquer une information, pour truquer une déclaration. Si on monte, c'est plutôt pour résumer une question, ou du moins...
Pour rentrer dans un gabarit.
Pour rentrer, on a des émissions qui doivent faire entre 25 et 50 minutes. À un moment, on ne peut pas diffuser des questions de 5 minutes dans ce genre d'émission. Et donc c'est toujours négocier souvent avec les personnes, mais on remarque aussi que même s'il y a certains climats de défiance, les gens se tournent aussi vers les médias malgré tout. Du moins, j'ai cette impression-là à Bruxelles, je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour le reste de la profession dans d'autres pays, qu'ils ont quand même besoin d'avoir une information qui passe par ce canal pour pouvoir être confirmée. Certes, ils vont peut-être dire « Tiens, j'ai vu passer ça sur Facebook. »
Confiance et reconnaissance ne sont pas les mêmes.
Voilà, c'est plutôt ça.
Il y a une question de notoriété, de caractère quasi officiel, en fait, si ça passe dans un média plus...
C'est ça, en fait.
Il y a toujours un vernis.
J'ai cette impression-là, en tout cas, de... On voit passer une information sur Facebook, on va demander à la chaîne locale « Tiens, est-ce que cette information est vraie ou est-ce qu'il s'est vraiment passé ça ?»
Si la question n'est pas indiscrète, est-ce que tu as une carte de presse ?
Oui.
Comment ça se passe en Belgique pour la délivrer ? Parce que la France, la Suisse, la Belgique, en tout cas la Belgique, je ne sais pas, mais la France et la Suisse la délivrent de manière complètement différente. Comment ça se passe et à quoi ça sert au-delà de montrer « je suis journaliste » ?
Alors, de notre côté, il faut donc avoir une activité soit principale, soit complémentaire en tant que journaliste. Maintenant, il faut prouver qu'on a cette activité.
Certificat de salaire, des trucs fun.
Voilà, en tant qu'indépendant.
Tous les papiers qu'on aime garder dans des classeurs. Génial.
Voilà, en tant qu'indépendant, par exemple, il faut prouver que pendant les 3 dernières années, on a régulièrement travaillé comme journaliste.
Donc, avez-vous fait le journalisme ?
Voilà, c'est très 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 compliqué quand on est indépendant de retrouver tous ces papiers de ces 3 dernières années. Et du coup, ça passe devant une commission qui autorise ou non, du coup, d'avoir la carte de presse. Après, elle n'est le seul moyen qu'on a de vous l'enlever, par contre, c'est si vous avez fait une faute grave, déontologique ou autre. Mais sinon, tous les ans, on vous propose de la renouveler. Vous pouvez la renouveler. Il n'y a pas une question de repasser devant la commission tous les ans.
Oui, il n'y a pas ce mécanisme de validation permanent. Voilà.
Et qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Bah, oui, en effet, ça nous permet de montrer qu'on est journaliste, mais ça nous permet aussi, de nous afficher aussi auprès de la police et de la justice, et ce genre de choses.
Puis-je venir devant la scène de crime, monsieur ?
Presque.
Presque. J'ai pas dit sûr, j'ai dit devant.
Devant.
Qu'on se trompe pas. Voilà. Dernière petite question dans ce domaine, comment est-ce que tu concilies, c'est vraiment une question que je me pose, même pour moi-même, le fait d'être journaliste et en même temps le fait d'avoir ton opinion propre et de temps en temps de l'exprimer sur Internet, sur Twitter, etc. Est-ce que tu sens qu'on pourrait venir te dire sur telle ou telle chose, dans l'exercice de ton métier, tu es biaisé par ce que tu penses ? Est-ce que tu crains ça ? Est-ce que tu as peur que ça pèse d'une manière ou d'une autre dans l'image de ton travail ?
Je me suis déjà posé la question plusieurs fois quand je communique sur les réseaux sociaux, sur des avis notamment vis-à-vis de certaines propositions politiques, par exemple, ce genre de choses.
Y compris dans ton pays, pas que des trucs.
C'est
facile pour nous de dire oh là là, la France, les conneries là.
Oui, voilà, c'est-à-dire que, entre guillemets, je vais avoir plus de facilité, clairement, à commenter la politique française que la politique bruxelloise ou la politique belge. Maintenant, ça ne m'empêche pas de critiquer la politique belge ou la politique bruxelloise quand il le faut. Je ne pense pas que ça transparaît dans mes papiers.
Parce que pour nous,
j'essaie toujours de garder une certaine distance quand j'écris un papier ou quand j'écris un tweet ou un post Facebook.
Ce qui est fascinant pour la Suisse, pour le coup, c'est qu'on a ce principe de parlement de milice, c'est-à-dire des gens qui ont un travail à côté et qui en même temps sont élus au Parlement, y compris au niveau national. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que tu as un rédacteur en chef d'un truc qui, en même temps, est littéralement au Parlement, affilié à un parti, tout le bazingue.
Ça, c'est
une étape de dessus, tu vois, mais
on n'est pas du tout à ce niveau-là.
C'est spécial. Oui, effectivement, Antoine, c'est bien de Fatih Derder que je subtweetais dans cette réaction, effectivement. Non, voilà, c'est vraiment
une question. On n'a pas du tout ça, et même, je dirais aussi qu'on n'a pas beaucoup de journaux ou de presse. Des titres de presse plutôt qui sont très colorés politiquement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'il y a un titre qui est un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais il n'y a pas de délimitation claire.
Il n'y a pas de cas typiques comme Le Figaro, Libération,
voilà,
etc.
Ça. On en est loin en tout cas en Belgique à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de neutralité, même si c'est toujours une approche, c'est pas forcément arriver à la vérité vraie toujours.
Non, effectivement, c'est fascinant parce que les titres de presse en Suisse, c'est encore une autre affaire. On y reviendra peut-être quand on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Je vais te poser une dernière question qui, cette fois-ci, a trait à Radio Kawa, parce que quand même, j'avais préparé des trucs, donc servons-nous-en.
Ah bon ?
Ça fait maintenant plus de 6 mois que tu es dans la direction de Kawa, dans le bureau des patrons. On a beaucoup parlé des défis, on a parlé des difficultés, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as kiffé dans ce rôle-là qui vient comme ça en tête de ces 6 mois d'avoir vraiment les doigts dans la prise, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qui te vient ? On entend rire dans le fond. C'est bien, c'était censé être drôle. Fallait rire avant. Je déconne. Vas-y.
Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est justement de pouvoir lancer de nouvelles émissions. Je trouve que ça, c'était vraiment chouette de pouvoir souhaiter la bienvenue à des personnes qui semblent motivées, qui sont motivées.
Qui semblent.
Non, mais
le niveau de subtweets de cette émission dans l'émission est génial.
Non, mais disons que quand je reçois juste un email, moi, j'ai pas beaucoup encore discuté avec la personne. Oui. Et donc, au début, elle me semble motivée. Et puis après, je me rends compte qu'elle est motivée.
Elle se révèle encore plus motivée.
Donc, franchement, je trouve que c'est le côté le plus chouette de cette fonction, c'est de pouvoir voir des nouvelles émissions, de pouvoir les lancer, de pouvoir les aider, etc.
Allez, on a encore une minute. Comment est-ce que tu jongles entre ta vie perso, ton travail et un investissement associatif comme Kawa ? Parce que je me pose toujours la question en ce qui me concerne. Comment on fait ?
Alors, ne pas dormir, c'est une très bonne solution.
J'ai essayé.
Non, plus sérieusement, j'ai eu un ancien boulot qui m'a pris énormément de temps. Toujours dans la presse, et le fait que j'ai changé de boulot justement m'a permis de pouvoir m'investir un peu plus pour Radio Kawa, parce que j'ai vraiment décidé de séparer le tout et de me prendre vraiment des sessions. Ok, pendant cette période-là, je m'occupe de Radio Kawa et pas pendant une autre, entre guillemets. Et si vous, sauf s'il y a vraiment une grosse urgence, mais jusqu'ici, on n'a pas eu d'énormes urgences, j'ai l'impression.
Pas eu de Titanic.
Voilà, donc je peux me montrer disponible quand il le faut, mais je préfère me garder des cases précises. C'est le plus important. N'hésitez pas à faire ça, les jeunes.
Top. Merci beaucoup, Greg. On te retrouve une fois toutes les deux semaines dans TVNR.
Le lundi, toujours le lundi. Dans TVNR. Et donc, il y aura un épisode ce lundi matin qui vous attend, tout chaud.
La pause Kawa, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve en mars, probablement, si le pilote est validé, avec une nouvelle interview en direct sur radiokawa.com/live, sauf si on m'annule donc après ce pilote. Merci à mon invité Greg Yenko.
Merci beaucoup.
Abonnez-vous à la pause Kawa en cherchant la pause Kawa dans votre application de podcast quand ce sera disponible dans un ou deux jours. Retrouvez l'émission sur Twitter @lapauserk, il n'y a rien dessus pour l'instant. Soutenez l'émission et Radio Kawa sur patreon.com/radiokawa. A bientôt, ciao ciao.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo, doujin music, on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi sur deux et c'est sur Radio Kawa.